19h07. Notre chroniqueur, planificateur financier Marc-Antoine Reed, qui est en studio d'IG Gestion de patrimoine. Comment ça va, Marc-Antoine Reed?
Ça va très bien, vous deux.
Toi, là, quand tu fais du travail de bureau à cette température-là, vu que tu es un travailleur autonome, ça te tente pas de sacrer ton camp?
Ça demande de la discipline.
Ça te prend de la discipline?
Particulièrement au début. Les conseillers qui commencent, que le calendrier est un peu vide, là, t'as le choix en dire attendre que l'ouvrage arrive ou provoquer la situation pour qu'il y en ait. C'est un piège de regarder à l'extérieur quand il fait beau comme ça.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Des petits trucs qu'on peut faire. Des fois, on peut travailler à l'extérieur.
Aujourd'hui, le sujet, c'est un sujet assez particulier parce que quand on est en vie et rempli de santé, c'est pas des choses auxquelles on pense faire un testament. Jeff, ton testament, es-tu fait, toi?
Malheureusement, non. Et il faudrait.
Parfait. Mais Marc-Antoine, si tu poses des questions à Jeff, là, ça se peut-tu que tu le mettes dans l'embarras avec les réponses qu'il n'aura pas le choix de te donner?
Ben, on va essayer, en fait, de créer un inconfort chez Jean-François.
Ouais, créez-le, s'il vous plaît, pour me motiver.
Pour le pousser à l'action.
Allez-y.
Jean-François est tout à fait humain. Hein? Peu importe ce que vous allez m'y répondre, s'il ne l'avait pas posé, je l'aurais posé cette question-là. Avez-vous un testament? Vous étiez dans la normalité. Pourquoi? Parce qu'il y a 50 % des adultes qui en ont un, 50 % qui n'en ont pas. Donc, vous êtes les deux ensemble, vous êtes absolument représentatifs. Par contre, si on pousse un petit peu plus loin puis on regarde les gens de 34 à 55 ans, bien là, à ce moment-là, c'est Jeff qui est dans la moyenne de ne pas en avoir parce que c'est 66 % qui en ont pas.
Seigneur, c'est donc bien beaucoup.
Hein, exact. Puis même parce quand que j'en parle...
Pour de vrai, moi, je suis gêné de ne pas en avoir un.
Bien, c'est
là,
ça.
Là, c'est 66 % mais juste qu'il y a de l'argent dans le crime.
Tu peux en faire un à soir, puis il va être légal.
Ben en effet.
C'est un de mes objectifs de la chronique aujourd'hui. Jeff,
excellent.
Ce soir...
Je fais mon testament.
Tu fais un testament. Une des trois formes de testament que je vais vous expliquer.
C'est
tu peux
bon.
Régler ça ce
J'en
soir.
Parlerai pas, par exemple, parce que, mon ado est chez nous. Je voudrais pas qu'il commette
mettons
le
meurtre. Mettons que tu meurs aujourd'hui. Bon, ouais. je souhaite pas à personne, bien entendu. Mais tiens, mettons que tu meurs en faisant l'amour ce soir.
Mm-hmm.
Je souhaite pas à Val. Mais mettons que tu meurs. Ta maison va à qui?
Ça ira à Val?
Non.
T'es pas marié, hein?
C'est vrai, je suis pas
t'es
marié.
Pas marié, OK. Non. Après ça, la portion de tes enfants, ils vont avoir quoi? Est-ce que c'est tes parents qui héritent ou c'est tes enfants? Est-ce que c'est le même pourcentage?
Ouais, bien ça, au niveau de mon assurance vie.
Parfait. Tes rayeurs vont où?
Là, je sais pas.
Tes rayeurs vont-tu à tes parents? Tes rayeurs vont-tu à tes parents?
Ils vont être décaissés d'un coup.
Tes dettes, qui se ramasse
la
avec tes dettes?
La facture d'impôt, les REER, décaissés.
Tes dettes, tu peux donner ça à Val.
Ouais.
Mais pour le reste, c'est toutes des questions faut que tu te poses, mon homme. Là, parce que tu peux mettre des gens bien dans l'embarras. Là.
Ouais,
dans
oui, vous me le faites vraiment rendre compte.
Absolument. Val, dans le fond, il faudrait qu'elle rachète la part de la maison qu'elle a pas.
Fait que là, dans mon testament, il faudrait que je marque que la maison va à Val.
Exact. Ma règle générale, c'est ce que les gens en font si tu l'as acheté avec elle.
Parfait.
Justement, je l'ai ici. Elle me dit de faire ça.
Oui, je sens que je vais recevoir un texto bientôt pour dire OK, tu es dans ta liste de parking, de choses à faire, celle-là devient priorité.
Ben, c'est ça, c'est le but de la chronique d'aujourd'hui.
Ben, merci.
C'est de démystifier ça un petit peu.
Ton
qu'on
char.
Soit à l'aise de le faire.
Ton char va à qui, Jeff?
Hey, mon minivan ira à qui?
Ouais.
Le vélo c'est de Max. Question. Mettons Max décède, son vélo va à qui?
Je sais pas. Mais mon minivan, c'est vrai. Je sais pas à qui va.
Si tu veux partir là, en bon état, là, sans te poser des questions, là, fais ça à soir.
T'as raison.
Ouais.
C'est quoi? Je fais juste écrire
ça
sur une feuille. C'est l'affaire.
Il va tout t'expliquer.
Explique-moi ça.
Exact.
Là.
Je vais tout vous expliquer ça. C'est une des trois formes de testament. Ouf. Oui. Donc, les gens qui écoutent, qui n'en ont pas, je recommande de faire le testament holographe, je vous le réexplique tout à l'heure, et de régler ça de façon plus officielle avec de meilleurs conseils par la suite. Aujourd'hui, je vous en donne quelques-uns, assurément. Donc, c'est quoi un testament? C'est un document par lequel une personne prévoit la façon que ses biens vont être partagés, mais ça va au-delà de ça, que ça assure aussi que ses volontés soient respectées pour éviter des scénarios malheureux et difficiles. Et il y en a plein, même si le Code civil du Québec prévoit, donc aujourd'hui, s'il t'arrivait quelque chose en sortant du studio, tu te fais écraser par une voiture. Et le Code civil prévoit certaines choses, mais un des problèmes, j'ai fait allusion à différents angles dans différentes chroniques, c'est que le Code civil ne reconnaît pas, ou maintenant, depuis la chronique de la semaine dernière, là, depuis le nouveau régime d'union parentale, ne reconnaît pas le conjoint de fait. Fait que c'est problématique dans plein de situations. Vraiment. C'est pas les seules situations problématiques, mais il y en a plusieurs qui tournent autour du conjoint de fait. Donc, on donnait l'exemple de toi et Val.
Mm-hmm.
Ce principe est là, vous êtes conjoint de fait, donc elle n'est pas reconnue par la loi, elle n'aurait pas le droit à quoi que ce soit, là, peu importe qui est autour de toi, là, si tu décèdes.
C'est arrivé à quelqu'un de proche de moi, là. La personne s'était acheté une maison avec sa nouvelle conjointe. Cette personne-là était mariée, non divorcée. Malheureusement, dans le sud, il se noie. La portion de la maison va à sa femme.
Puis là, il faut que la nouvelle conjointe puis la femme négocie la maison.
Bonne chance.
Ouais, encore marié et séparé, c'est des autres situations problématiques. Donc là, techniquement, si t'es encore, du point de vue de la loi, t'es encore marié. Donc là, la personne hérite. Donc c'est un sujet qu'on évite pour plein de façons, plein de raisons. Et puis je vous dis tout à l'heure, j'ai oublié de vous mentionner un petit truc, là, 34 à 55 ans, il y a 66 % des gens qui n'en ont pas. Mais là, je veux pas faire peur à personne, là. Mais je me suis servi, j'essaie de m'en servir de plus en plus, là, l'intelligence artificielle. Puis j'ai dit, la probabilité de décéder avant 55, si aujourd'hui tu as 34 ans. Pour un homme, là, c'est 5,5 à 6 %. Donc, ça fait quand même une chance sur 19. Fait que si vous êtes 19 dans une salle, techniquement, il y en a un qui ne se rend pas à 55. Après ça, pour une femme, c'est un peu mieux, 1 sur 28.
Okay.
Mais c'est quand même.
C'est quand même énorme.
C'est une statistique. Pas qu'on devrait craindre, mais ben, qui devrait nous inciter à faire les choses correctement.
Je sors dans le bureau, là, puis on est plus de 18 hommes. Là, fait que ça veut dire qu'il y en a un qui va partir avant 55.
Exact, selon la probabilité. Puis, ça pourrait être 0 puis, ou 2, là, mm-hmm. Comme un peu comme au casino. Là, des fois, les mêmes numéros ils sortent une couple de fois en ligne. Mais c'est quand même, c'est pas anecdotique là, comme probabilité. Il y a quand même des chances que ça arrive. Puis le testament, ben, on remet ça, mais... Pour plein de raisons, là, tu sais, mais ça va au-delà des biens aussi. Une des raisons qu'on se dit, c'est « Ah, j'ai pas beaucoup d'argent, c'est pas grave, là, pas besoin de faire ça. » Mais il y a plein d'autres choses qu'on prévoit dans un testament auxquelles il faut réfléchir. Particulièrement si vous avez des enfants, c'est qui s'occupera de vos enfants? Qui va respecter un petit peu votre vision de la scolarité ou la façon que vous voulez les encadrer si vous êtes plus là? Donc ça, c'est des éléments qui peuvent être couchés sur papier, là, mm-hmm. dans un testament. Après ça, qui...
Nous, dans notre cas, c'est pas la même personne qui va s'occuper des enfants, puis c'est pas la même personne qui va s'occuper de l'argent des enfants jusqu'à leur 25 ans. C'est deux administrateurs différents. Fait qu'il y en a deux qui vont... Il y a une personne qui va s'occuper de mes deux enfants si jamais moi et la mère on décède. Puis il y a une personne qui va administrer l'argent. Puis ces deux personnes-là devront travailler de concert ensemble pour l'éducation des enfants.
Puis Yannick, t'as nommé... T'as dit un chiffre, t'as dit 25 ans. Là.
Ouais.
Jean-François, c'est aussi une autre source de motivation. Les sous que tu pourrais laisser aux enfants si t'as pas de testament, ils vont tous leur être donnés à 18 ans. Donc, est-ce que c'est souhaitable? À toi de voir.
Ouais.
Moi, j'en connais plusieurs des jeunes de 18 ans qui sont devenus bien raisonnables avec le temps, mais qu'à 18, ils l'auraient été moins.
Ouais, je fais partie de cette génération-là.
On est deux. De moi, 100 000 à 18 ans, je suis pas ici.
Non. Je vais reprendre les paroles d'un de mes chums. J'ai sûrement dépensé une hypothèque d'un bar, mais je ne le regrette pas, mais c'est ça. Je m'avais donné 100 000, il existerait plus.
Je connais pas toute ta situation personnelle, mais plus que tu en as, plus ça serait vrai.
C'est ça. J'aurais payé beaucoup de tournées.
Oui, c'est ça. Donc là, qui va s'occuper aussi d'exécuter tes volontés, ton testament? Dans certains cas, c'est préférable de lui donner un rôle prolongé aussi. On en a nommé un quand il y a des enfants plus jeunes. Donc, c'est important de bien réfléchir. Il y a des biens spécifiques aussi. Écoutez, pour moi, là, tu sais, de planificateur financier, une des principales sources de chicanes, c'est les testaments mal faits ou les successions. Ouais. Là. C'est souvent la volonté, quand tu as des bonnes discussions profondes avec les parents, tu veux que la famille reste unie. Mm-hmm. Souvent, le lien, c'est les parents. Des chicanes pour des niaiseries, là, tu sais, ou pour des sous, là, ça, de bien planifier ça, puis de bien réfléchir aussi, ça fait partie, contribuer à garder la famille unie, faire les choses dans l'ordre. Sauver de l'impôt. T'sais, tout à l'heure, tu parlais de la situation. Là, donc là, aujourd'hui, peut-être qu'on va semer une réflexion de ton côté.
Vraiment.
Le conjoint, il est favorisé pour les choses qui auraient de l'impôt. Donc, entre autres, tes REER, si tu les cèdes à tes enfants, c'est comme si tu les sortais d'un coup. Ouais. Fait que si t'en as pas mal, c'est 53,3 jusqu'à 53,3 d'impôt l'année de ton décès. C'est comme si tu vendais tout, dans le fond, à ton décès. Tandis qu'il y a plusieurs biens, dont les REER, qui se roulent au conjoint sans impôt et pour lequel l'impôt est différé au deuxième décès.
OK.
Donc, c'est à bien réfléchir. Ça fait que les scénarios catastrophes, on en a nommé quelques-uns, mais je vais être un petit peu plus spécifique. Si vous décédez, la loi prévoit quand même certaines choses qui sont mieux que rien, comme dans plusieurs cas, mais qui a plusieurs situations problématiques. Entre autres, deux conjoints de fait qui ont une maison et un enfant, 100% va à l'enfant. Si je vais plus loin, deux conjoints de fait qui n'ont pas d'enfant, pas de parents, tous vont aux neveux et nièces. Fait que imagine, tu peux être propriétaire de la maison avec les neveux et les nièces de ton ex conjoint ou conjointe décédé. Après ça, si tu es marié, séparé, on l'a nommé tout à l'heure. Si tu es marié et séparé, deux tiers va au conjoint, puis un tiers, si tu n'as pas d'enfant, là, deux tiers va au conjoint, un tiers aux parents. Est-ce que c'est souhaitable? Tu es séparé. Ouais, là, c'est la personne n'est plus dans ton cœur, elle fait partie de ton passé, si on veut. Après ça, d'autres situations problématiques là, sur lesquelles je recommande, j'ai souvent des discussions, les secondes unions de quelqu'un qui est assez fortuné. Fait que là, on est un petit peu pris en deux volontés. Souvent, la personne aime beaucoup son conjoint, mais il veut favoriser ses enfants aussi. Comment on va faire ça de la bonne façon pour éviter le maximum d'impôts, si on veut? Et aussi des scénarios un peu catastrophiques où est-ce que le conjoint hérite d'une bonne somme? Mettons un exemple de deux personnes, une personne fortunée qui est avec un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe. Il laisse une bonne partie de ses sommes à cette conjointe-là ou ce conjoint-là, pour faire aucune orientation là-dessus. Puis l'autre personne décède un an après. Si ça a mal été ficelé, il ne reste rien pour tes enfants là, de tout ce qui a été au conjoint et conjointe. C'est que ça, c'est des cas que j'ai vus souvent. Là, les deux sortes, là, je propose de regarder le testament aux deux. Il y a des disparités dans les deux, puis on ne prévoit pas bien les choses. Et là, souvent, les gens ils pensent que c'est pour les multimillionnaires, mais il y a quand même des situations où la création d'une fiducie testamentaire peut être intéressante. Donc là, la fiducie protège les actifs, s'assure que le conjoint manque de rien, mais que qu'est-ce qui resterait de tout ça irait quand même aux enfants. Donc ça garde un certain contrôle contre un nouveau conjoint qui rentrerait dans la vie de la personne. Ça fait qu'à réfléchir, ça coûte rien l'y réfléchir, puis le penser, puis le prévoir par testament. Ça fait que j'espère que mes explications là-dessus vous convainquent. Maintenant, il y a trois formes.
Oui.
Rapidement, holographe, celle que Jeff doit faire ce soir. Tu l'écris à la main et tu signes tes volontés, ton testament. Donc, c'est mieux que rien. C'est une solution facile et rapide. La deuxième, c'est devant témoin. Donc là, tu le signes devant les témoins. Tu peux le faire à la machine, tu le signes devant les témoins. Puis la troisième, c'est notarié. C'est assurément celle que je recommande. Les deux premières, ça respecte les volontés, mais tu ne reçois pas de conseils, puis tu payes pour l'homologuer. Ça coûte plus cher homologuer un testament qui n'aurait pas été enregistré, fait par un notaire au décès, que de payer le notaire pour recevoir le conseil.
Oui, puis parlez-en aux gens concernés aussi, là, si, que, mettons, exemple...
Oui, c'est ça, exact. C'est
votre ex-conjointe, qui est la mère de vos enfants, doit être un peu au courant de où est-ce qu'ils sont vos papiers, puis patati, patati.
Exact. Puis là, quelques points, si vous en avez un, bien, il faut qu'il soit revu. C'est quand est-ce qu'on le revoit? Lors d'événements importants d'une vie. Donc, une naissance. J'ai beaucoup de clients entrepreneurs, création d'une nouvelle entité ou compagnie. Après ça, nouveau conjoint, décès, à l'achat d'une maison. Ça fait que dans les événements importants, relisez votre testament, probablement qu'il nécessite une modification. Puis encore une fois, ça peut sembler une facture élevée, mais c'est moins cher que de me léguer l'autre puis de tous les scénarios qu'on peut éviter. Ça fait que, bref, pour conclure, là, je vous encourage de vous pencher sur ce point-là, de faire comme Jeff va faire ce soir. Jeff, je vais te texter ce soir. Oui. As-tu fait ton testament?
Je vais le faire avec plaisir.
Holographe. Et puis là, par la suite, ben, avec un notaire, c'est l'idéal. Tu sais, aller plus loin puis remplacer ce que tu as fait avec un notaire. Puis c'est source de planification intéressante de notre côté, faire réfléchir les clients. Entre autres, on peut... un des outils qui est fort intéressant, c'est se servir de l'assurance. On peut couvrir l'impôt au décès, entre autres quelqu'un qui aurait deux résidences, il veut que les enfants gardent le chalet, il y aurait de l'impôt sur un des deux. On peut se servir de l'assurance aussi pour l'équité, conjoint versus les enfants, pour avoir accès à des sous rapides aussi. Des fois, une succession est, a une bonne valeur, mais il n'y a pas de liquidité dedans à court terme là, pour le conjoint ou les enfants qui hériteraient. Fait que, bref, il y a des réflexions à avoir et il y a des éléments de planification intéressants à envisager dans plusieurs situations.
Merci beaucoup, Marc-Antoine Reid, planificateur financier IG Gestion.
Tu m'as convaincu.
J'imagine qu'il y a des gens qui vont penser à ça dans les prochains jours, des conjointes aussi, des conjoints qui se rendent compte que leurs papiers ne sont pas faits. Gérez vos affaires parce qu'à partir du moment où vous serez mort, c'est les gens qui vont gérer les affaires pour vous autres, puis ça se peut que vous laissiez des gens très mécontents autour de vous autres. Pour les gens qui veulent te rejoindre, Marc-Antoine?
Facile à rejoindre, numéro sans frais qui illustre bien ce qu'on fait comme travail. 1-833 ton plan. Sinon, vous pouvez nous googler Équipe Marc-Antoine Reid RED. Vous allez retrouver notre site Internet où est-ce que vous pouvez prendre contact ou même réécouter cette connexion-ci et les précédentes sur votre site qui est vraiment bien faite.
BLVD.fm ou encore sur l'application Boulevard. Merci Marc-Antoine.
Merci.
Bonne journée. On se reparle la semaine prochaine. 418-971-1021 si vous avez des choses à nous dire, les amis, par texto. Ça fonctionne bien. Il se passe quoi que ce soit sur la route. Merci d'être nos yeux, nos oreilles. On va aller la rejoindre tout de suite parce qu'elle a un horaire quand même assez chargé. Son nom, c'est Catherine Genticor. Elle est députée du PQ d'Enterrebonne. Madame Genticor, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous en ce mardi ensoleillé?
Mais écoutez, le soleil est toujours au moral, donc très bien, très occupé, évidemment, vous l'avez dit, mais on lâche pas.